Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon vendredi. Aujourd'hui, on est le 15 octobre. Demain, le 16 octobre, ça fera exactement un an que Samuel Paty, ce professeur d'histoire français, est mort. Il a été poignardé puis égorgé par un terroriste islamiste. Pourquoi? Parce qu'il avait montré en classe des caricatures de Mahomet, parce qu'il y a eu autour de lui une campagne de dénigrement basée sur des mensonges. C'est absolument inconcevable de se dire qu'il y a un an, un homme, professeur, a pu mourir égorgé parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui n'aimait pas le fait qu'il avait montré en classe des dessins. Des dessins. Mourir pour défendre la laïcité, mourir pour avoir défendu la liberté d'expression, c'est absolument inconcevable. Donc c'est important aujourd'hui dans les écoles en France, les élèves vont devoir respecter une minute de silence et demain il va y avoir des hommages bien sûr à Samuel Paty. Donc permettez-moi aujourd'hui, bien modestement à ma façon, de lui rendre hommage. Samuel Paty, reposez en paix.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Vous le connaissez comme styliste, designer, animateur télé. Il a même été chroniqueur à mon émission. Jean Héroldi, qui est maintenant candidat pour Ensemble Montréal dans le district Champlain-L'Île-des-Sœurs. En pleine campagne électorale ou municipale, on avait le goût de lui jaser. Jean Héroldi, bonjour.
Bonjour Sophie, ça va bien?
Ben moi, ça va très bien. Première question, Jean. Aimes-tu ça, la politique municipale?
Ben, sais-tu quoi, Sophie? Moi, ce qui me faisait le plus peur, parce que tu sais, quand on te rend compte, au début, on t'explique pas tout ce que tu vas devoir faire pendant la campagne électorale. Ça a l'air bien facile, puis bien le fun, mais finalement, je trouve plaisir, et à ma grande surprise, à faire du porte-à-porte.
Ah oui?
Parce que, ouais, puis c'était la partie que je me disais, bah, d'aller cogner chez les gens. Moi, j'aime mieux que le monde vienne cogner chez nous que d'y cogner ailleurs. Et là, en cognant, en faisant mon porte-à-porte, j'ai beaucoup de plaisir de rencontrer mes gens puis de voir aussi ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment moins, ce qui a changé. Et jaser avec eux autres, puis même, tu sais, faut que je me limite, parce que tu sais, on nous dit, faut pas que tu restes plus que 3 minutes par porte, sinon t'as pas le temps de faire ben des portes pendant ta soirée. Mais des fois, tu sais, je me surprends, puis là, ben, je me dis, crime, là, faut que j'arrête de parler, mais c'est intéressant ce que les gens ont à dire. Puis des fois, je trouve que c'est tellement des petites choses à changer pour rendre les gens heureux que tu te demandes comment ça que c'est pas déjà fait.
Ah oui, à ce point-là. Donc, tu fais du porte-à-porte. Évidemment, toi, t'as l'avantage quand même que les gens te connaissent la plupart du temps, alors que le citoyen lambda, le candidat lambda, ben lui, il arrive, puis il faut qu'il explique qui il est. Toi, les gens te connaissent. Est-ce que ça t'est utile ou ça te nuit dans certains cas?
Assurément, ça m'est utile, parce que je pense que j'ai une belle image, puis une bonne image, et l'affaire qui m'aide le plus, Sophie, c'est pas l'effet que j'ai fait de la télé, puis tout ça, parce que, tu sais, à l'Île-des-Sœurs, ici, puis Verdun, moi, je suis tellement impliqué au niveau des écoles, ça fait 7 ans que je suis sur la fondation des écoles de l'Île-des-Sœurs, je suis maintenant le porte-parole de la fondation, même si j'ai plus d'enfants à l'école, donc je suis beaucoup impliqué, tu sais, moi, là, d'aller couvrir des livres à la bibliothèque, d'aller organiser des défilés, des concerts, de passer le Bonne Noël pendant le concert. Ça fait 7 ans que je fais ça. Fait que beaucoup de gens, parce que tu sais, à l'Île-des-Sœurs, il y a quand même beaucoup de gens qui ne parlent pas vraiment français, même d'autres qui ne parlent pas vraiment anglais. Mais ces gens-là me disent tout, oui, on te reconnaît de l'école. Donc ça, je trouve que c'est encore plus fun parce que...
Ils te reconnaissent de l'école, mais pas de la télé. Ah, c'est intéressant.
Non, pas de la télé.
Oui.
Pas du tout. Fait que ça, je trouve ça le fun. Puis on sait que t'es impliqué, on sait que tu vas être là. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment le fun. Puis je regrette pas les 7 ans que j'ai fait là avec la fondation. pour rencontrer puis donner du temps pour les enfants, parce que je trouve que c'est plus payant ça que... Parce que, tu sais, moi, ça m'a toujours fait rire en politique, là, quand vient le temps de tu sais, que les élections s'en viennent, là, tes voix, là, pour ramasser les poubelles sur le bord du chemin, tes voix, là, tu sais, ils sont partout, là, mais un coup qu'ils sont élus, ils sont plus nulle part. Et tu sais, à l'Île des Sœurs, même, je me rappelle, au mois d'avril, il y avait une collecte de poubelles où je suis allé, tu sais, je les ai appelés, puis je les avais vus, tu sais, ça finit à quelle heure, puis, tu sais, est-ce que je peux y aller, puis finalement, ça n'avait pas marché, mais je voulais y aller. Et là, ben, il y en a eu une, il y a deux semaines, ben, là, tout le monde de tous les partis politiques était tout là. Tout le monde avait leur sac noir, puis c'était donc le fun de ramasser des poubelles. Mais je me suis dit, tu sais, que moi, en tant que nouveau politicien, même si j'aime pas tellement le mot, là, mais dans le fond, c'est de faire ce que je faisais déjà, tu sais.
Je comprends.
Vis-à-vis des gens, je trouve que c'est moins hypocrite.
Oui, alors écoute, donc Jean, on se connaît, puis on est amis, et t'as déjà été chroniqueur à cette émission et tout. Donc, mais aujourd'hui, c'est quand même le candidat politique que je reçois, donc j'ai pas le choix de te poser des questions peut-être plus difficiles, comme par exemple ta relation avec les médias. T'as donné une entrevue à nos collègues de Nouveau, donc la station de télévision. T'étais pas bien préparé. On va écouter un petit extrait, Jean.
Sincèrement, je suis pas équipé. Si vous pensez faire une entrevue avec moi ce soir pour savoir ce que je veux faire, on n'est pas là. On se reparlera peut-être dans deux mois, dans trois mois, pour vraiment voir là, c'est quoi sur la plateforme également de M. Coderre, qu'est-ce qui va se passer. Ça va me faire plaisir d'être porte-voix quand je saurai quoi dire et quand je saurai exactement ce que la plateforme propose. Vous comprenez? Mais pour l'instant, je suis pas là. Je commence. Je suis un petit nouveau. J'arrive en politique.
OK. Jean, t'étais pas préparé pour cette entrevue-là.
Mais en fait, j'étais préparé pour l'entrevue qu'on m'avait suggérée, parce que j'ai posé des questions pour demander de quoi on va parler dans cette fameuse entrevue-là. Et c'était pas ces questions-là qu'on devait me poser. Alors, c'est pour ça que j'ai accepté l'entrevue, parce que sinon, je n'aurais pas accepté. Et le journaliste martelait toujours sur les mêmes questions. Et je suis un gars en politique, mais je suis pas un menteur, puis j'inventerai pas des choses. Donc, moi, là, quand tu sais, Sophie, quand tu rentres en politique, c'est pas. Puis je te dirais pas qu'aujourd'hui, je connais tout ce qui se passe au niveau politique. Par contre, je suis bien entouré. J'ai, entre autres, Antoine Richard qui se présente à Verdun, qui connaît les dossiers de A à Z, que j'appelle constamment pour lui demander, pour lui poser des questions. Je suis là pour apprendre. Je suis pas un gars d'expérience, mais je suis un gars de terrain. Je suis un gars d'écoute. Et sincèrement, je pense qu'au final, puis tu sais, si tu me rappelles, Sophie, tu sais ce que c'est la politique après plusieurs années, après plusieurs mois. On apprend déjà dans les derniers trois mois, j'ai appris énormément de choses, même sur ma ville que je connaissais pas. Mais c'est sûr, cette entrevue-là, à nouveau, c'était vraiment pas ça qui était. C'était un peu sournois comme entrevue.
D'accord. Jean, tu viens de parler toi-même de Antoine Richard, donc tu me permettras évidemment de souligner ce que notre bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec, a sorti comme histoire mercredi matin. Donc, le journal a révélé qu'Antoine Richard, qui se présente dans Verdun pour le parti Ensemble Montréal, avait réalisé des profits de 471 000 $ en faisant deux reventes rapides de logements, communément appelées des flips, en 2019 et en 2020. Toi, tu as maintenant ton papier de courtier immobilier.
Oui.
Qu'est-ce que tu penses de ça, quelqu'un qui fait des flips et qui les fait de la façon dont M. Richard les a fait? Parce qu'il y a une partie de ce qu'il a fait qui est jugée interdit par l'OACIQ.
Qui n'est pas suggéré, qui n'est pas interdit, Sophie, parce que...
Non, mais il y a des parties qui sont interdites. Notre bureau d'enquête a vérifié, il y a des parties de ce qu'il a fait qui sont interdites, Jean.
Sophie, moi, ce que je te réponds, c'est que si c'est interdit, il y aurait un rapport de l'OACQ. L'OACQ est là pour protéger les clients et non pas les courtiers.
Alors, mais ça prend des années avant qu'ils donnent des sanctions puis qu'ils fassent enquête.
Non, Sophie. L'OACQ sont très, très, très rapides. Les courtiers en ont tous peur. Et là, tout au long de notre cours, je suis en train de suivre mon commercial présentement. Ils nous font tellement peur avec l'OACQ. Ils sont là, ça prend pas des années avant qu'ils reviennent. S'il y a un dossier qui ne fonctionne pas, inquiète-toi pas, ils sont là pour ça.
Ben, écoute, je te lis textuellement ce qui est écrit dans le texte de nos collègues. Bien qu'il ne soit pas défendu.
Par le journaliste.
Ben oui, mais écoute, je te lis ce qui est écrit dans le journal. Bien qu'il ne soit pas défendu au courrier de faire des flips immobiliers, Antoine Richard a bel et bien commis des pratiques interdites. Il a fait une publicité pour la vente d'une propriété dont il n'était ni le propriétaire ni le courtier. Il a utilisé le site de publication Centriste pour vendre sa propre propriété. Donc, le parti de M. Coderre, le parti pour lequel tu te présentes, on dit, ben nous, il a maintenu son candidat, il a maintenu donc la candidature d'Antoine Richard en disant, ben nous, on s'en remet à l'OA CQ. Moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, Jean, tu nous as dit tout à l'heure que tu as eu plusieurs discussions, que tu parles régulièrement avec M. Richard. Est-ce que tu as soulevé ces points-là avec lui?
Tout à fait, tout à fait. Puis moi, son explication, ça faisait mon affaire. Il y a eu des avis de divulgation qu'on ne parle pas dans l'article. Il y a eu plein de choses qui ne sont pas présentes dans l'article du journaliste. Et moi, comme je te dis, Sophie, l'OACQ, vérifier auprès de eux. Mais s'il y a des plaintes, je ne pense pas. Et c'est vraiment la police de l'immobilier, c'est l'OACQ, donc moi, je me réfère à eux.
Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, des flips?
Mais écoute, Sophie, les gens là, sont en affaires. Il y a plein de gens qui font des flips, c'est pas que des gens en politique. Je veux dire, si moi, j'ai la chance d'acheter une maison, puis de la rénover, puis que 3 ans après, je revends ma maison, puis je fais du profit, est-ce que c'est mal?
Non, mais c'est pas juste le flip en tant que tel qui est problématique, c'est la façon dont c'est fait, qui est pas, il y a eu un manque de transparence quand même par rapport à la propriété qu'il a achetée. Et aussi, je te cite le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec qui disent, ben, à force de faire des flips, là, à force de faire de la spéculation, comment on va faire, nous, le citoyen ordinaire, pour arriver à se payer une propriété? Donc, qu'est-ce que tu réponds, toi, à quelqu'un, quand tu fais du porte-à-porte? Il doit y en avoir des gens qui disent, on a de la difficulté à se loger, monsieur Héroldi.
Oui, mais Sophie, est-ce que la différence entre, mettons, la mairesse Valérie Plante qui a acheté un simplex puis qui l'a réduit en triplex pour avoir des espaces plus grands, c'est quoi la différence? Tu sais, mettons, là, t'achètes une maison, t'achètes 2 maisons, t'en fais une avec. Tu sais, je veux dire, c'est des choix à un moment donné. Et je suis d'accord que ça en prend des logements pour tout le monde. Mais en même temps, c'est la loi du marché aussi.
Oui, mais Valérie Plante n'est pas courtière immobilière, là. Ce qu'on reproche à Antoine Richard...
Non, mais ça change rien. Courtier ou pas courtier, ça change absolument rien. Qu'est-ce que le courtier vient changer là-dedans? Si le client qui a vendu est d'accord de vendre, là, puis à ce que je cherche, dans le cas d'Antoine Richard, la personne qui a vendu l'appartement à M. Richard est très contente du prix qu'il a vendu à M. Richard. Il n'y a eu aucune plainte de ce côté-là. Là. Est-ce que quelqu'un s'est plaint de ce côté-là?
Donc, ce que je comprends, c'est que toi, tu as été, tu as lu le journal, comme tout le monde, mercredi. Tu en as parlé avec Antoine Richard depuis. Et les explications que te fournit Antoine Richard, toi, comme candidat pour l'équipe Coderre, ça te satisfait. C'est ce que je comprends, Jean?
Tout à fait. Tout à fait.
Parfait. Jean, très brièvement, maintenant que tu as eu l'occasion de rencontrer les gens, ça va être quoi ton cheval de bataille principal comme candidat aux élections?
Le cheval principal de bataille, c'est de ramener des infrastructures du côté de l'île des Sœurs, parce qu'on n'a pas beaucoup d'infrastructures et entre autres, on a besoin d'une troisième école. Au niveau de l'île des Sœurs, les tours se construisent là couramment. Là, on en a encore en construction. Donc, on a un ajout d'enfants. La population rajeunit aussi à l'île des Sœurs, donc beaucoup de petites familles. Je ne sais pas si tu connais l'île des Sœurs, mais présentement, on a une école qui est en haut d'une caisse populaire qu'on appelle l'annexe, qui est temporaire, qui est super pour les enfants, mais qu'à un moment donné, quelque chose de temporaire doit avoir une cour adéquate pour les enfants pour jouer tout ça. Donc ça en fait partie. On a le lac La Coursière aussi à l'île des Sœurs qui est un gros problème de c'est pas un, on sait pas si c'est un lac ou si c'est pas un vrai lac. Qu'est-ce qu'on peut le vider, le nettoyer, le remplir? Donc ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup, beaucoup les gens de l'île des Sœurs. Et il y a toujours aussi le dossier du golfe qui est litigieux, qu'il faut vraiment. Mais avec tout ça, Sophie, ça, c'est des grosses affaires. Il y a une piscine aussi du côté de la terre ferme à Verdun, un centre aquatique qu'on veut avoir. Mais à part ça, il y a aussi la patinoire qui est pas très belle l'hiver. Il y a
on va se quitter là-dessus, Jean. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, mais je comprends que, disons, comparé à quelques semaines, tu maîtrises pas mal mieux tes dossiers aujourd'hui qu'au début de la campagne.
Exactement.
Merci, Jean Héroldi, donc, que vous connaissez bien, qui est candidat pour Ensemble Montréal dans le district Champlain-Lîle-des-Sœurs. Merci, Jean.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la Pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
La rencontre Barrette-Durocher.
S'il y a une chose qui est désolante quand on prépare des repas, c'est de voir parfois quand on ouvre le frigo à quel point on fait du gaspillage alimentaire. Marie-Claude, c'est de ça que tu avais envie de nous parler aujourd'hui. On se sent toujours coupable. Moi, quand je mets des aliments au compost, ça me pogne au ventre. Je pense aux gens qui ont rien à manger ou qui ont pas suffisamment à manger. Je me sens coupable.
Ben absolument. Hier, je lisais un article où Sylvain Charlebois, directeur principal laboratoire et sciences analytiques en agroalimentaire, Université de Dalhousie. Tu sais, il est très connu dans le domaine.
Oui, on le reçoit souvent, oui.
Exactement. Puis il parlait justement du gaspillage alimentaire. Puis ça m'a... c'est parce qu'il disait que plus de 35,5 millions de tonnes de nourriture parfaitement saine sont jetées chaque année au Canada. Puis malheureusement, Sophie, pour moi, je me reconnais là-dedans. Puis je me dis, tu sais, des fois, les consommateurs, il y a des choses qu'on peut faire aussi, tu sais, pour l'environnement, pour la récupération, pour... Et ça en fait partie. Moi, je me suis rendu compte que pendant la pandémie où on était confinés... au moment où on était confinés dans nos maisons, moi, il y avait beaucoup moins de gaspillage alimentaire parce que je prenais le temps d'ouvrir le frigo, je prenais le temps de regarder ce qui restait puis me poser la question, qu'est-ce que je peux faire avec ça?
Aussi, Marie-Claude, pendant la pandémie, vu que le voyage à l'épicerie, c'était comme un voyage de la NASA, tu sais, c'était hyper compliqué, tu te disais, ben là, ça me tente pas trop d'aller à l'épicerie trop souvent, donc on prenait plus soin de nos aliments parce qu'on n'avait pas le goût d'aller à l'épicerie.
Exactement, puis tu sais, je me regarde comme consommatrice. Pour moi, dans le fond, ça, c'était positif parce que je faisais beaucoup moins de gaspillage alimentaire. Comme tu dis, tout prenait son sens puis tout devait avoir une utilité et une façon de récupérer, de faire des nouvelles recettes, de prendre ce temps-là aussi. Parce que dans cette vie effrénée-là, tu sais, faire venir des boîtes avec de la bouffe toute prête, c'est très, très tendance. Puis on comprend, les gens mangent bien, ils cuisinent quand même un peu, mais ils n'ont pas besoin d'aller faire les marchés. Alors que moi, je veux revenir plus à cuisiner mes affaires. C'est une espèce de vie qui n'est pas que le travail, que la course contre la montre, mais quelque chose de plus épicurien, de toucher aux choses. Et je me rends compte personnellement que moi, je participe malheureusement au gaspillage alimentaire. Et c'est vraiment, depuis que la vie a recommencé, j'ai encore la même tendance. J'achète des choses, finalement, je les mange pas. Et je veux plus faire ça. C'est pour ça que cet article-là m'a autant interpellée. J'ai dit, okay, comme consommatrice, on chiale des fois contre le gaspillage d'un paquet d'affaires. Mais moi, là, comme individu, je peux faire ma part justement en réutilisant la nourriture et non nécessairement à la mettant au compost, alors que, tu sais, c'est pas une... Des fois, le compost, c'est très bien, c'est terrestre ou peu importe, mais quand c'est ta nourriture qui passe du frigo au compost, ça ne fonctionne pas. Et vraiment, là, je m'accuse moi-même là-dedans. Et ce que j'aime maintenant, puis c'est drôle, c'est Marie-Soleil Michon qui, à un moment donné, me racontait qu'elle, quand elle allait faire son marché, elle cherchait toujours des paniers où il y avait des choses périmées. Tu sais, des fois,
ah,
ça...
Oui.
Périmé ou un peu poqué.
Poqué, ouais.
Ouais, puis là, maintenant, je m'amuse à chercher ce fameux panier. Et justement, Sylvain Charlebois, il dit dans l'article, avant, ces paniers-là, il les cachait où il y avait moins de lumière dans le fond des supermarchés. C'était comme la honte d'aller fouiller là-dedans. Puis il dit maintenant, c'est tendance. Puis même à Vancouver, à Toronto, il y a des commerces de vraiment tous les produits défraîchis. Et tu donnes ce que ça vaut pour toi, cet aliment-là, et ces fonds-là vont à des fondations pour nourrir d'autres personnes. Alors,
vive
ça,
les
moches. Intéressant. Ben, vive
les
moches.
Les moches.
Oui, exactement,
oui.
Parce qu'il faut comme s'arrêter. Ça n'a pas de bon sens qu'on jette 35,5 millions de bonnes nourriture, tu sais.
Ah, écoute, le chiffre fait vraiment, donne froid dans le dos. Écoute, j'ai envie de t'entendre aussi sur les jeunes. Moi, je regarde, par exemple, mon fils, puis encore une fois, je fais comme toi, je m'accuse de pas avoir assez sensibilisé mon fils à ça. Mais tu sais, lui, quand il y a 5 pommes sur le comptoir de cuisine, puis il y en a une avec une petite poque de rien du tout, ben, il va pas la manger. Et c'est complètement ridicule, elle est aussi bonne que les autres, mais je me sens coupable d'avoir en effet élevé mon enfant en disant ben là c'est pas grave, tu sais, mais on a ce syndrome là de la perfection. Si tu sais, si ton yogourt il est valide jusqu'au 22 octobre, à partir du 22 octobre à minuit, il devient pas périmé là, tu peux le manger le 23 octobre puis il va être encore bon là. Mais on a trop longtemps été dans ce syndrome-là de la perfection.
Ouais, parce qu'on vit dans l'abondance. Tu sais, tout est en abondance parce que si ton yogourt, c'est ça que tu as à manger, ben la date de péremption prend une autre forme, parce que moi, je suis comme toi là. Moi je regarde toutes les dates, puis tu sais, il faut que je me parle. Puis tu sais, je sais que dans les produits périssables, c'est la date qu'ils donnent, c'est bon au moins 10 jours après encore, là, t'sais, parce qu'il faut qu'ils mettent une date. C'est sûr que les viandes, c'est autre chose, mais 10 jours, c'est au moins 10 jours. Puis il y en a qu'ils s'en foutent complètement de la date de péremption. Ils vont tasser le verre puis ils vont le manger. Là, t'sais, ça dépend de sa capacité, puis ça dépend aussi de ton état de santé. Il faut quand même avoir un système immunitaire pour gérer le verre, là, si jamais il y en a sur ta bouffe. Mais il y a quand même une réflexion, puis tu as raison, c'est de l'éducation, puis de comprendre que la bouffe que tu jettes, bien, ça devrait pas être dans tes vidanges, là, tu sais. Oui, les composts, c'est une règle, mais je le répète, le compost, c'est comme la fin de la vie de l'aliment. Ça devrait pas être sa première raison d'être, c'est pas de le mettre au compost, là. C'est de le bouffer, là, tu sais. Et tu sais, il y a vraiment, là, ce que j'aimais de tout ce que j'ai lu, parce que là, je me suis mis à lire là-dessus, c'est à quel point les supermarchés, si on y va la journée même qu'on veut cuisiner, les viandes, il y a plein de rabais de 25 à 50 sur des beaux morceaux de viande, parce que on sait que c'est ce qui coûte cher aussi dans notre panier d'épicerie. Et c'est de la bonne viande. C'est juste que là, il faut qu'elle soit mangée cette journée-là. Donc, des fois, tu as peut-être y aller, au lieu d'y aller une fois par semaine, si on peut se permettre d'y retourner, ben on peut, tu sais, plus qu'on y va la journée qu'on mange, plus qu'on peut avoir des rabais. Puis, veut pas, l'épicerie, là, c'est une grosse rubrique de dépenses dans notre mois, ça. Alors, si, mettons, 30 % de notre bouffe qu'on mange pas, c'est à nous qu'on fait du tort aussi, là. C'est jeter notre argent par les fenêtres.
Absolument.
Le gaspillage alimentaire. Donc, je pense qu'on a, comme consommateur, vraiment avoir une réflexion. Et moi, vraiment, la première là-dedans, quand je mets quelque chose dans mon panier, est-ce que je prévois le manger? Puis là, le truc que je me suis trouvé, moi, j'ai vraiment de la misère à me faire des listes. Moi, liste, ça veut dire que je perds ma liberté. Tu sais, ça, c'est dans ma tête, là.
Moi, j'adore,
c'est
comme, les listes.
Ah,
bon, mon Dieu.
Ben,
moi, je fais des listes de listes.
Ah, tu fais des. Alors, ben,
j'adore ça.
Moi, pour faire l'épicerie, Sophie, je suis genre, je m'en vais, puis ça, c'est beau, je vais l'acheter. Ça a l'air bon. Mais je ne sais pas quand je vais manger ça. Alors là, j'essaie vraiment de me discipliner. Je le faisais quand les enfants étaient jeunes. Je faisais des listes avec des repas. Puis à un moment donné, je me suis je n'ai pas besoin de ça, mais j'en ai vraiment besoin. Je pense quand on sait où on s'en va, quand on planifie nos choses, puis si on y va la journée même, on planifie notre souper. Je pense que dans la planification, il y a le moins de gaspillage possible. Puis il y a même des applications qu'on peut trouver où ils vont nous dire les meilleurs endroits pour ce qui s'en vient périmé, ce qu'il faudrait. Tu sais, des épiceries vont dire c'est urgent de venir parce qu'aujourd'hui, il y a plein de dates de péremption qui arrivent, donc il y a des rabais. Donc, il y a des façons de en tout cas de moins gaspiller. Puis je pense que faut se regarder dans le miroir parce que, tu sais, moi, des fois, ils parlent de choses, ça appartient aux grandes entreprises. On dirait que je peux pas rien changer. Mais ça, comme consommatrice, je peux intervenir. Donc, absolument. Moi, c'est vraiment mon défi des prochains mois, Sophie. C'est pour ça que je voulais t'en parler. Puis je pense qu'on devrait être plusieurs à se lancer ce défi-là de nous observer comme consommateurs de nourriture et de dire, mais qu'est-ce que je mets dans mon compost? Mettre de mon compost du frigidaire au compost ou du panier de fruits au compost, il y a quelque chose là-dedans qui marche pas. Puis surtout avec les fruits, on peut faire tellement de desserts, de compotes, de confitures, même s'ils sont pas frais. Au pire, on peut prendre un couteau pour enlever la partie pas fraîche puis le manger aussi, là. Mais donnons-nous ce devoir-là, je pense, comme citoyen.
Ben, je vais peut-être te faire hurler, Marie-Claude.
Vas-y.
Ou peut-être te choquer. Moi, je suis une fan je peux nommer des compagnies, mais tu sais, Good Food, Hello Fresh, Cook It et tout ça. Toutes des noms anglais, je sais pas pourquoi. Moi, j'adore ça. J'adore me faire livrer une boîte dans laquelle il y a des recettes avec exactement les ingrédients qu'il me faut. Et je sais que d'un point de vue écologique, c'est pas parfait, mais ces compagnies-là sont en train vraiment d'améliorer. Il y en a beaucoup, il n'y a plus justement les grosses boîtes, c'est plus livré dans des sacs individuels. Tu peux toujours prendre ça, mettre ça au recyclage. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent ça, qui dénoncent ça, mais moi, je trouve que c'est une façon formidable, justement, de ne pas avoir de gaspillage, parce que quand on te dit, dans ta recette, ça te prend deux poitrines de poulet, ben, t'as juste deux poitrines de poulet. Quand on te dit, ça te prend, je sais pas moi, ça te prend quatre tomates, ben t'as quatre tomates. Alors que si tu t'en vas faire l'épicerie, tu te retrouves toujours avec des affaires restantes en surplus. Si t'as besoin pour une recette d'avoir une sauce soya particulière, ben tu vas acheter le pot au complet de sauce soya, puis peut-être que ça va prendre 6 mois avant que tu le réutilises. Là, si t'as besoin de 50 millilitres de sauce soya, c'est ça que tu vas avoir. Et je sais que c'est beaucoup dénoncé, les boîtes repas. Nous, chez les Durocher-Martineau, on a trouvé que c'était vraiment une bonne solution. Et honnêtement, on a réduit énormément notre gaspillage avec ça.
Ben, c'est peut-être une bonne façon. Moi, je pense que ça dépend. Moi, j'ai plein d'intolérances alimentaires. Quand j'ai essayé les boîtes, ça devenait assez compliqué d'avoir des repas, là, tu sais, parce que ça allait pas avec les repas qu'ils faisaient dans la semaine ou peu importe. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, on dirait que j'ai envie de revenir à... Moi, j'aime ça aller faire mon marché. On dirait que ça me manque dans une routine que j'ai besoin. C'est comme j'aime mettre les mains dans mes affaires, mais moi, j'enlève rien. Pas contre les boîtes, là. Je trouve juste que c'est pas tout le monde qui peut se payer des boîtes.
Ah, c'est ça, quand c'est même, sûr. J'en suis conscient.
C'est quand même dispendieux. Quand des fois, tu as des jeunes enfants, ça veut pas dire qu'ils vont aimer ce que tu cuisines. Moi, je me souviens, quand on l'a essayé, les enfants étaient à la maison et ça leur permettait de cuisiner aussi facilement.
Mais voilà!
T'sais, pour les enfants, en tout cas, je trouve que ça nous apprend à cuisiner, ça nous apprend à assaisonner parce qu'il y a des épices qu'on n'aurait jamais utilisées des fois qui arrivent dans ces boîtes-là.
Exactement.
Il y a des avantages quand même là à ça, là.
Oui, puis moi, écoute, je suis une très, très, très mauvaise cuisinière. C'est comme une légende. Mais avec les boîtes, je fais des recettes différentes tout le temps. Je veux dire, hier soir, j'ai fait du poulet pané avec du panko. La veille, c'était de la morue sur un lit de nouilles avec du bok choy. T'sais, moi, du duche, là, je m'en vais à l'épicerie, je vais pas acheter du bok choy, puis je vais pas faire une chapelure de panko avec mon poulet.
Mais tu développes talent de cuisinière. Là,
voilà, ben oui. Puis maintenant, je suis sûrement meilleure cuisinière parce que, justement, j'ai toutes ces recettes-là à portée de main. Puis t'as tout à fait raison de dire que c'est... Il y a plein d'épices différentes, il y a plein d'ingrédients que, normalement, j'aurais jamais utilisé, que là, j'apprends à découvrir. Et parce que les recettes sont, en général, assez simple. Ben, mon fils, il est à côté de nous, puis il nous aide, puis il fait à manger. Et même Richard, il s'est mis à découper des tomates, puis tout ça, ce qu'il faisait pas avant. Fait que c'est vraiment une victoire pour l'humanité. Mais je trouve que on a peut-être tendance... Puis je le sais que ça coûte des sous, là. Je sais que c'est cher, puis c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. J'en suis parfaitement consciente. Mais même dans ces compagnies-là, il y a toujours des trucs beaucoup moins chers que les autres. T'sais, c'est sûr que tu peux te payer du filet mignon, mais tu peux aussi te payer de la viande hachée, là. Je veux dire, il y a les deux possibilités. Et ce que j'ai remarqué avec le temps, parce que ça fait quand même longtemps qu'on utilise ça, Il y a de plus en plus de plats végétariens, il y a même des plats vegan et tout, donc il y a des plats sans gluten, tu sais, vraiment, ils sont adaptés au marché, et je pense que, écoute, après, chacun fait ce qu'il veut, mais de cette prise de conscience-là, là, que de pas gaspiller, puis surtout les chiffres qui sortent, là, 35,5 millions de tonnes jetés chaque année au Canada. Écoute, l'exemple qu'il donne, il dit c'est assez pour remplir 319 000 appareils Boeing 787 Dreamliner.
Ah non, c'est
ça fait peur.
C'est épouvantable.
Bon, ben écoute, merci beaucoup, Marie-Claude. Je pense qu'on va prendre des bonnes résolutions. Passe une excellente fin de semaine, puis on se retrouve lundi.
Merci, bye-bye, bon week-end.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Vous connaissez bien sûr Caroline Saint-Hilaire, analyste politique à la Joute, à TVA, puis aussi une collègue régulière ici à Cube. Et quand j'ai vu qu'elle mettait en ligne, qu'elle travaillait sur une nouvelle plateforme qui s'appelle La Cuvée pour réunir dans un seul et unique lieu plein de talents de femmes, je me suis dit, bon, ben, faut que je parle à Caroline. Elle est au bout de la ligne. Bonjour, Caroline.
Bonjour, Sophie. J'espérais que tu m'appelles. Écoute, j'aurais pas pu lancer ça sans parler à Sophie Durocher.
Bon, arrête donc. ça s'appelle La Cuvée, donc au début, je me disais, bon, ben, Caroline s'associe à quelque chose qui s'appelle La Cuvée, on va boire du bon vin, peut-être que c'est un 2021, c'est un bon millésime, mais ça a rien à voir avec le chardonnay ou le pinot noir. C'est quoi La Cuvée, Caroline?
Ben, en fait, La Cuvée, c'est parti d'une intention que Flavie Payette, Sophie Villeneuve et moi, on se parlait depuis quelque temps, puis on se disait, c'est à chaque fois qu'on voyait des nominations à gauche et à droite, c'était souvent des hommes, on voyait pas beaucoup de femmes, puis on se disait, on était un peu désolés, puis on se disait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça? Puis, dans mon parcours politique, Sophie, moi, chaque fois que j'incitais des femmes à se lancer en politique, je sentais toujours ce fameux doute, cette hésitation de dire, ah, je suis pas sûre que je suis bonne. T'es-tu sûre que j'ai les compétences? Bon, ce fameux doute qui, on dirait, est très, très présent chez les femmes. Et à l'inverse des organisations politiques ou des entreprises qui disent, ben, on en veut des femmes, on les trouve pas. Alors, ce qu'on a décidé de faire, dans le fond, c'est créer une plateforme où les femmes vont pouvoir déposer leur candidature, mettre leur CV en ligne, dire leurs intérêts, et des entreprises, des organisations vont pouvoir aller sur cette plateforme-là, dire, ben voici, je cherche une femme, par exemple, dans des compétences électroniques, communautaires, finances, comptabilité, peu importe, et pouvoir sélectionner ces femmes-là pour augmenter la présence des femmes sur les conseils d'administration. Donc, c'est une action positive. On arrête de chialer dans notre salon. On propose des candidatures, c'est concret. Et les femmes pourront plus dire ben qu'elles n'ont pas d'endroit. Elles vont pouvoir avoir un endroit. Et les entreprises pourront pas dire ben ils sont où les femmes. Il y aura une plateforme pour aller chercher ces femmes-là remplies de talent.
OK, fait que c'est comme un Tinder. Pour oui, les entreprises, mettre en contact, parce que c'est comme les femmes vont s'inscrire. Est-ce qu'elles vont pouvoir swiper vers la gauche là, puis faire leur magasinage? Non, mais c'est parce que ceux qui connaissent pas Tinder, oui. Puis je me demande s'il y a vraiment des gens qui connaissent pas Tinder.
Ben moi, je connais rien de ce que tu dis, mais je
mais tu sais que Tinder, c'est une application pour rencontrer des gens, pour avoir des relations horizontales. Donc là, c'est pour avoir des relations verticales avec les entreprises.
C'est ça, des relations profitables aux deux parties. Oui, c'est une façon d'approcher, dans le fond, un des organisations, des entreprises.
D'accord.
On est à moins de 20% de présence féminine dans les conseils d'administration au Québec. Me semble qu'on peut faire mieux que ça. Mais tu sais, c'est pas tout de dire, ben, on veut plus de femmes. Elles doivent, elles, faire un effort pour se faire connaître. Elles doivent exister. C'est parce que, tu sais, il y en a plein de femmes qui sont talentueuses. Mais si on les connaît pas, on peut pas aller les recruter. Et à l'inverse, les entreprises, les organisations qui disent, ben, moi, je veux bien augmenter la présence sur mon conseil d'administration, mais je les trouve pas. Alors là, on va jumeler les deux en même temps, Donc, je trouve, moi, la raison pour laquelle je trouve ce projet-là intéressant, c'est que je trouve que c'est une action positive, c'est concret, et ça améliore le sort.
Oui, puis au lieu de chialer, comme tu dis, on se retrousse les manches, puis on fait quelque chose. J'aime beaucoup, Caroline, le fait que tu commences en parlant justement de ce doute des femmes, parce que c'est trop facile de dire tout le temps, oh, c'est la faute à la société, c'est la faute aux entreprises, c'est la faute au patriarcat. Il faut aussi qu'on se regarde dans le miroir comme femme, puis qu'on se dise, il y a une partie de notre absence dans la place publique qui vient de nous. Et on est absent de la place publique parce qu'on n'a pas assez confiance en nous. Donc, c'est une façon de, au lieu de victimiser les femmes, de les responsabiliser.
Exactement, exactement. C'est vraiment ça. Alors, tu sais, on joue sur les deux tableaux en même temps. Puis on l'a vu, là, la COVID aussi, Sophie, tu fais des entrevues, les femmes ont été beaucoup plus affectées par la COVID. Et c'est pour ça que la ministre Charest a décidé d'embarquer le gouvernement du Québec, parce que ça répondait justement aussi à une façon pour sortir les femmes de cette difficulté, disons ça comme ça, de la COVID. Donc, ça va être une opportunité pour elle de siéger sur des conseils d'administration. Il faut augmenter la présence des femmes, mais tu sais, c'est pas tout de le dire puis d'y rêver dans son salon. Il faut trouver des façons concrètes. Alors, c'est ce que propose la QV. Donc, c'est une plateforme très sécuritaire aussi. C'est une plateforme, là, c'est pas dirigé en main, là, c'est par des mains québécoises. Et donc, on va savoir exactement ce qui se passe. Et donc, on est très, très emballés par ça.
Alors, tu l'as dit, donc, c'est lancé et approuvé et encouragé par Isabelle Charest, qui est ministre de la Condition féminine. Et je trouve ça très touchant parce que parmi les gens que tu nous as mentionnés tout à l'heure qui travaillent avec toi sur cette plateforme-là, il y a Flavie Payette Renouf, qui est donc la petite fille de Lise Payette, qui a été la première femme responsable de la condition féminine. Donc, il y a une sorte de lignée, de transmission intergénérationnelle. Moi, ça me touche beaucoup de savoir ça.
Ben, tu sais quoi, Sophie, ça me touche encore plus que ça te touche. Parce que ça va prendre des femmes comme toi, des femmes comme moi, qui, au-delà de certaines divergences d'opinion, disent à un moment donné, OK, on fait quoi pour passer à l'action? Tu sais, moi, je suis bien bonne pour chialer, là, mais à un moment donné, tu dis, OK, on peut faire quoi? Ça peut pas toujours être la faute de l'entreprise ou du gouvernement. Ça peut pas toujours être des initiatives trop grandes, puis tu dis, OK, on y arrivera pas. Tu sais, on n'a pas l'ambition de changer le monde avec la QV, mais on se dit, si quelques femmes arrivent à accéder à des conseils d'administration et que ça fait un peu l'effet boule de neige, ben de tranquillement augmenter, un, la présence, augmenter les statistiques, puis un peu changer la façon de gérer aussi, parce que veut pas, puis on l'a vu, là, les métiers les plus difficiles au cours de la dernière année, c'est des métiers essentiellement affectés par les femmes, que ce soit les infirmières, les éducatrices, et à l'inverse, Sophie, quand on fait une relance économique, on fait quoi une relance économique? On commence par des métiers essentiellement de tradition masculine, que ce soit la route, les ingénieurs, les infrastructures. Alors, c'est une façon positive d'y répondre pour dire aux femmes, regardez, arrêtez de douter, lancez-vous, osez. Puis de l'autre côté, aux entreprises, ben là, arrêtez de dire qu'il n'y en a pas de femmes, il y en a plein. La réponse, Sophie, elle est absolument extraordinaire. Les femmes sont emballées et déjà les entreprises aussi.
D'accord. Donc, c'est vraiment, quand je disais tout à l'heure un Tinder, c'était une blague, évidemment, mais l'idée, c'est de jumeler, donc de jumeler comme un entremetteur professionnel. Écoute, Caroline, je peux pas t'avoir au bout de la ligne, toi, donc très impliquée en politique, que ce soit au municipal, au provincial, au fédéral. Comment tu réagis quand tu vois, par exemple, je regarde Balarama Holness, donc le candidat à la troisième voie, là, à la mairie de Montréal, qui reçoit des messages absolument haineux, il se fait traiter de, bon, il est noir, il se fait traiter de mots qui commencent par un N, il est allé voir la police avec ça, ça donne pas le goût à personne d'aller se lancer en politique municipale quand on reçoit des messages haineux comme ça?
Absolument. C'est odieux. Et on dirait que c'est de plus en plus intense, c'est de plus en plus difficile comme approche. Vraiment, les attaques sont plus virulentes. Dans mon temps, ça remonte à quelques années, c'était presque sympathique comme attaque, là, comparé tout ça aujourd'hui. Et effectivement, c'est le danger, là. Et j'en parlais tout à l'heure ce matin parce que à chaque fois que je fais une apparition, on me demande quand est-ce que je retourne en politique. Écoute, je n'ai aucun intérêt. Quand tu vois ce qui se passe actuellement,
t'es sérieuse?
Complètement fou. C'est difficile. Premièrement, ça a toujours été ingrat, la politique en général, on le sait. Mais c'est particulièrement vrai maintenant avec les réseaux sociaux. Mais tant mieux si on dénonce. Moi, je pense qu'il faut plus hésiter de dénoncer. C'est sûr que c'est plus laborieux, c'est compliqué. Puis tu sais, des fois, on se le dit, c'est plus facile de passer à autre chose que de porter plainte. Mais il faut, parce que plus on va le faire, peut-être que ça va changer la mentalité. Il faut dénoncer ces actes-là. Parce que moi, honnêtement, je salue toute personne qui se lance en politique. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ça prend des gens qui s'investissent. Et c'est ça qu'il faut saluer. Débattons des idées, débattons de contenu, ne soyons pas d'accord, mais ne tombons pas dans la haine ou dans les attaques personnelles. Ça, c'est toujours odieux.
Sur une note peut-être plus personnelle, toi, on le sait, ton conjoint, c'est Maca Koto. Quand t'as vu justement que Balarama Holness, les messages qu'il recevait, il se faisait traiter de... Bon, je pense que je vais le dire en onde. Bon, il se fait traiter... Non, je le dirai pas au complet. Il s'est fait traiter de sale haine. De sale haine. En 2021, il y a encore des gens qui écrivent des choses pareilles. Caroline! Ouais, allô?
L'ignorance est encore toujours présente. Moi, quand je suis sortie du placard pour annoncer ma relation avec Maca, on m'avait dit, Sophie, t'as pas trouvé personne de ta race, que j'étais une traître à ma race parce que je sortais avec un homme noir. Et bon, ça fait plusieurs années, me diras-tu, mais quand même, en 2021, des gens ignorants, des gens incultes, il y en aura toujours. Je pense qu'il faut, nous, dans les médias, faire de l'éducation, de la pédagogie, répéter sans cesse. Il faut le faire aussi dans nos familles, avec nos enfants, dans le réseau scolaire. Moi, je pense que nos enfants, Sophie, nos petits-enfants seront ailleurs, mais des mononcles, il en existera toujours. Mais on a de l'ouvrage encore à faire, malheureusement. Mais je ne sais pas si je suis trop optimiste aujourd'hui, peut-être que demain j'aurai un autre discours, mais j'ai comme pas toujours envie non plus de m'attarder à ces attaques-là, qui deviennent très, très lourdes. Puis en plus, moi, je ne porte pas la couleur. Donc, je la vis par alliance, par amour. Mais je compatis beaucoup et je serai toujours là pour dénoncer ce genre d'attaque-là.
Bon, ben écoute, merci beaucoup, Caroline. Félicitations pour ton projet, La Cuvée. Puis donne un bisou à Maca de notre part. Je trouve ça vraiment, moi, ça me met complètement à l'envers quand je vois ce genre de commentaires-là circuler en 2021. Je suis complètement abasourdie, flabbergastifiée. Mais non, c'est absolument épouvantable. Mais donc, ben bonne suite, puis bonne longue vie à La Cuvée. Puis espérons que les femmes vont arrêter de douter d'elles-mêmes. Merci beaucoup, Caroline.
Merci beaucoup, Sophie. À bientôt.
Caroline Saint-Hilaire, oui, analyste politique à la Joute à TVA, qui venait nous parler de cette nouvelle plateforme en ligne pour jumeler des femmes et des entreprises, pour qu'il y ait plus de femmes, justement, dans les conseils d'administration, puis toutes sortes de postes aussi. Donc, allez voir ça, La Cuvée.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
La semaine dernière, quand on a appris que Carrie Price demandait de l'aide, qu'il avait des soucis de santé mentale et qu'il allait prendre une pause, ben évidemment, ça a créé un état de choc. Beaucoup de gens, évidemment, ont salué avec raison le courage de Carrie Price, l'importance aussi d'en parler sur la place publique. Mais il y a beaucoup de gens, dont moi, qui soulevaient la question suivante. Bon, ben c'est parfait pour Carrie Price parce qu'il a évidemment accès à de l'aide psychologique, mais monsieur et madame tout le monde, ils font comment pour avoir de l'aide psychologique au Québec? Et c'est un point de vue qui est partagé par le docteur Alain Lesage, il est psychiatre, il est chercheur au Centre de recherche de l'ISUM et professeur au département de psychiatrie de l'Université de Montréal. Il a d'ailleurs écrit dans les journaux à ce sujet-là. Monsieur Lesage, bonjour.
Oui, bonjour, madame Durocher.
Docteur Lesage, quand vous avez vu Carrie Price, que cette sortie publique où on parlait d'un homme qui a des problèmes de santé mentale et qui va chercher de l'aide et qui en obtient, comment vous avez réagi?
Très favorablement. Ça peut parler à tous les hommes qui ont également des problèmes de détresse psychologique, de problèmes de syndrome d'anxiété, de dépression, des problèmes avec les substances aussi, lesquels s'associent souvent à des problèmes d'anxiété aussi, et que de passer par-dessus le stigma qu'il y a souvent chez les hommes, hésitent à aller chercher de l'aide. Et là, voici vraiment un exemple, d'aller chercher de l'aide.
Par contre, pour quelqu'un qui s'appelle pas Carrie Price, mais qui s'appelle, je sais pas moi, Joe Blow, c'est plus difficile.
C'est plus difficile d'aller chercher de l'aide. Les hommes, en général, vont aller chercher d'abord de l'aide auprès de leur médecin de famille, en qui ils ont confiance. Mais le médecin de famille va pouvoir, si tu as un problème d'anxiété, de dépression, prescrire les meilleurs traitements, une médication, une psychothérapie. Pour la médication, c'est universellement accessible, peu importe vos moyens de payer. Mais si vous avez besoin de psychothérapie, certains sont couverts par l'assurance de leur grand employeur, hein, la Banque nationale, Desjardins, ou encore si sont employés du secteur public, de la santé et des services sociaux, de l'éducation. Ils vont avoir accès à un programme d'aide aux employés et pouvoir avoir accès à la psychothérapie qui va leur être assurée à ce moment-là par le secteur privé. Mais si vous n'êtes pas assuré, ben là, vous devez faire la file d'attente au guichet d'accès de votre CLSC avec des fois des attentes de 6 mois, de plusieurs mois, 1 an. On a même vu plus qu'un an actuellement, puis ça ne s'est pas amélioré pendant la pandémie.
Oui, puis même, Dr. Lesage, vous dites, la première étape, c'est d'en parler à notre médecin de famille. J'aimerais rappeler qu'il y a des milliers de gens au Québec qui n'ont pas encore de médecin de famille. Donc, même cet accès-là n'est pas à la portée de tout le monde.
Bien, écoutez, pendant la pandémie, dans les gens n'ont pas nécessairement leur médecin de famille, mais il y a quand même les cliniques sans rendez-vous, etc. On estime quand même que les 3/4 de la population, hein, qui, à chaque année, parlent ou ont vu un médecin de famille. Puis pendant la pandémie, dans les premiers 3 mois de la pandémie, il y a plus de 2 millions de Québécois Québécoises qui ont parlé à leur médecin de famille au téléphone pour leurs problèmes de santé, renouvellement de l'éducation, etc. Il y a quand même une accessibilité de ce côté-là. Mais ce qui n'est pas accessible, c'est la psychothérapie quand vous n'êtes pas couvert.
Ouais. Alors justement, parlons-en, puis c'est ça qui a motivé le fait que vous ayez écrit cette lettre ouverte dans les médias, qui a été publiée dans Le Devoir. Qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que bon, les médecins, habituellement, vous êtes pas trop... vous cherchez pas la lumière, là, c'est quand même rare. Donc qu'est-ce qui a fait que vous, docteur Lesage, vous avez décidé d'écrire cette lettre dans les journaux? C'était quoi le but?
Depuis au moins 10 à 15 ans avec des collègues également psychologues, avec des organisations de personnes avec troubles d'anxiété, de dépression comme Revivre, Mood Disorder Society of Canada, on se bat pour démontrer que l'accès à la psychothérapie pour tous est non seulement une solution économique, parce que ça nous coûte plus cher actuellement, comme société, de ne pas traiter tout le monde qui aurait besoin de psychothérapie. Alors, on se bat pour ça. On écrit des articles, on a fait des travaux de recherche, puis on intervient aussi sur la place publique, comme dans la lettre dans Le Devoir à ce moment-là, pour souligner comment on a comme un Québec à deux vitesses quant à l'accès à la psychothérapie. On ne l'a pas pour la médication, mais on l'a pour la psychothérapie. Il y a des gens qui peuvent avoir accès par leur programme d'aide aux employés, y compris les employés du secteur public, à l'accès en privé, avec des grandes firmes comme Morneau-Chapelle ou Dialogue et d'autres aussi à ce moment-là. Et par ailleurs, vous avez des gens qui n'ont pas accès à cela, qui sont des gens qui sont moins fortunés, plus défavorisés aussi. C'est choquant, c'est inéquitable. C'est scandaleux, je dirais, qu'on ne donne pas le même accès à ceux qui ne sont pas assurés au type d'accès que ceux qui sont assurés. Pas plus, pas moins.
Oui, c'est vraiment, c'est important ce que vous dites quand vous dites un Québec à deux vitesses, donc on est en train de faire deux classes de citoyens et les problèmes de santé mentale vont pas en diminuant, donc on peut comprendre que s'il y a en effet deux classes de citoyens puis que les besoins augmentent, cette discrimination-là va continuer à augmenter. Juste qu'on revienne sur l'affaire des coûts, la question des coûts, vous nous dites, ça coûte plus cher de ne pas soigner les gens en psychothérapie. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement, Dr Lesage?
Je veux dire par là qu'à cause de leurs problèmes d'anxiété et de dépression en particulier, qui sont les plus prévalents aussi à ce moment-là, à cause de ça, les personnes sont moins performantes dans leur travail ou même sont obligées d'arrêter de travailler. Ils sont moins présents à l'intérieur de leur famille pour leurs enfants, pour leurs conjoints. Ils sont moins présents comme citoyens également. Donc, il y a de l'incapacité à court et à moyen terme qui sont une des principales sources d'incapacité de toutes les maladies qui existent actuellement. C'est d'un point de vue de la société. On se prive de ressources et la performance de l'économie va être moindre. Donc ça, c'est le point de vue sociétal. Puis évidemment, il y a le point de vue des personnes aussi
qui sont c'est-à-dire qu'en fait,
à souffrir. Oui. Les gens autour des autres qui en souffrent, leur milieu de travail, leur compagnon de travail, quelqu'un qui est moins présent, qui est moins disponible, alors qu'on a besoin de tout le monde et les personnes elles-mêmes. Imaginez la souffrance qu'il y a, qu'on pourrait aider aussi à ce moment-là. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là, tous ces coûts-là sont plus importants que le coût de fournir le traitement.
D'accord. Donc, si vous aviez, mettons, le ministre de la Santé devant vous, Christian Dubé, vous lui diriez quoi en termes d'allocation de ressources? La solution, elle passerait par quoi, Dr Lesage?
Je ferais exactement comme l'Ontario puis le Manitoba.
Ah, bonne réponse. Qu'est-ce qu'ils font en Ontario pour Manitoba?
Étant donné que leur système de santé publique ne réussissait pas à fournir, ils ont passé un contrat avec les grandes firmes d'aide aux employés, comme Mono Chapelle, entre autres. Il y a Dialogue qui pourrait le faire très bien aussi. Ils ont passé un contrat au Manitoba, par exemple, qui est une province qui est plus petite que nous, qui est moins riche que nous. Ils ont passé un contrat apparemment de 4,5 millions avec Mono Chapelle pour traiter 900 personnes au coût de 500 $ en moyenne par personne. Et les traiter à distance dans les deux langues. Aussi.
Wow.
Alors, à Saint-Boniface, Saint-Boniface, Mono Chapelle travaille partout au Canada, donc ils peuvent donner des psychologues en français, qui peuvent parler français et qui peuvent évidemment parler anglais. Imaginez à Saint-Boniface, près de Winnipeg.
Oui.
Les francophones, ils pouvaient avoir accès au traitement. Donc, ils ont 9 000, apparemment, c'est 9 000 personnes environ. Donc, j'encouragerais le ministre Dubé à donner un coup de fil à ses contreparties au ministre de la Santé en Ontario, puis au Manitoba, pour leur demander comment ils ont fait, est-ce que ça vaut la peine ou pas.
Excellent. Écoutez, j'aime ça quand on finit une entrevue sur une note positive, surtout sur quelque chose de constructif. On observe une situation, on comprend c'est quoi la problématique et on propose des solutions. J'adore ça, c'est très clair. Dr Alain Lesage, vous êtes médecin au département de psychiatrie et à l'Université de Montréal. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui, puis on souhaite bonne chance à tous les gens qui ont des soucis de santé mentale et qui, pour l'instant, n'ont pas accès à des médecins. Merci.
Au revoir.
Eh bien, c'est comme ça que ça se termine. Merci beaucoup d'avoir été là toute la semaine à Cube Radio. Merci à Jean-François Paquet, qui est un tout nouveau réalisateur, metteur en onde chez nous. Beaucoup d'expérience, mais tout nouveau chez nous. Donc, on le salue puis on le remercie pour sa présence. Donc, à la réalisation, la mise en onde. Merci aussi à Florence Lamoureux à la recherche. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente fin de semaine et on se retrouve lundi.
Cube Radio.